Shalom à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Shalom Bourgogne et Histoire d'Outre-Manche, le 13e numéro. À la technique, Élie, et derrière le micro, votre producteur et conteur fidèle, Frédéric. Ce soir, nous voyageons au cœur d'une histoire qui a façonné le monde, celle du peuple juif. Il sera question de résilience, de foi inébranlable et d'une perpétuelle quête d'un foyer, de la Mésopotamie jusqu'aux rives de la Tamise. Nous débuterons par les fondements de la foi et de l'identité juive, pour ensuite nous orienter vers la dimension anglaise du judaïsme, avec l'arrivée médiévale, l'expulsion traumatisante de 1290, la clandestinité et enfin la réadmission qui fait de la communauté juive anglaise l'une des plus influentes d'Europe aujourd'hui. Alors, je vous invite pour ce numéro exceptionnel, préparé en hommage à l'accueil très chaleureux qui m'a été réservé par toute l'équipe de Radio Shalom Bourgogne. Suivons ensemble les chemins de l'histoire. L'histoire du peuple juif ne peut se résumer à une succession d'événements. Elle est le fruit d'une alliance entre un peuple et un dieu. Et selon le récit biblique, tout commence au deuxième millénaire avant l'ère commune, avec Abraham. Dans la ville d'Ur, en Chaldée, au milieu des cultes polythéistes de la Mésopotamie antique, Abraham reçoit l'appel d'un dieu unique. C'est le fondement même du monothéisme qui allait révolutionner la spiritualité humaine. Mais oui, le polythéisme avait cours depuis l'Antiquité grecque et romaine. Alors, la promesse divine est double, une descendance nombreuse et la terre de Canaan. Abraham, Isaac et Jacob, également nommés Israël, sont les patriarches, les ancêtres des 12 tribus qui formeront le peuple hébreu. Les patriarches occupent une place centrale dans les traditions bibliques, juives, chrétiennes et islamiques. Ils sont considérés comme les ancêtres fondateurs du peuple d'Israël. Et leur récit, transmis par la Bible hébraïque et par l'Ancien Testament, constitue le socle de la foi monothéiste. Alors vous avez d'abord Abraham, le premier des patriarches. Il est souvent présenté comme le père des croyants. Selon le livre de la Genèse, Dieu lui apparaît et lui ordonne de quitter sa terre natale pour se rendre en Canaan, pour en faire une grande nation. Cette alliance, scellée par la promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, marque le début d'une relation privilégiée entre Dieu et l'humanité. L'épreuve du sacrifice d'Isaac, où Abraham accepte de sacrifier son fils unique sur l'ordre de Dieu, avant qu'un ange ne l'arrête, illustre sa foi inébranlable et devient un symbole de confiance absolue en la volonté divine. Épargné par un ange, Isaac, fils d'Abraham et de Sarah, incarne la continuité de cette alliance. Son rôle est moins développé que celui de son père ou de son fils Jacob. Et pourtant il reste une figure essentielle, notamment à travers l'épisode de la bénédiction volée par Jacob. Des tensions familiales existent, et elles sont complexes. Vient ensuite Jacob, petit-fils d'Abraham. Il est sans doute le patriarche dont la vie est la plus riche en rebondissements. Après avoir trompé son frère Ésaïe pour obtenir le droit d'aînesse, il fuit et vit une expérience mystique. La vision de l'échelle reliant la terre au ciel, symbole de la communication entre Dieu et les hommes. Plus tard, après avoir lutté toute une nuit avec un ange, comme quoi les anges ne sont pas toujours des anges, il reçoit le nom d'Israël, qui deviendra celui de tout un peuple. Ses 12 fils, issus de ses 2 épouses et de leurs servantes, donneront naissance aux 12 tribus d'Israël, structurant ainsi l'identité collective du peuple juif. Enfin, nous avons Joseph, l'un des fils de Jacob. Il est vendu comme esclave par ses frères jaloux, mais son intelligence et sa foi lui permettent de devenir gouverneur d'Égypte et d'y installer sa famille. Cette dernière échappe à la famine, puis prépare le terrain pour l'exode futur et la formation de la nation israélienne. Les patriarches ne sont pas seulement des figures historiques, ils sont aussi des modèles de vertu et des archétypes humains. Leur récit explore des thèmes universels, la foi évidemment, la trahison, la réconciliation, la persévérance et la bénédiction. Leur héritage dépasse les frontières religieuses. Elles influencent l'art, la littérature et la philosophie aussi, à travers les siècles. Dans la tradition juive, les patriarches sont vénérés comme des piliers de la foi et leur tombeau à Hébron reste un lieu de pèlerinage et de prière. Pour les chrétiens, ils préfigurent la venue du Christ et l'universalité du salut. Dans l'islam, Abraham, que l'on appelle Ibrahim, est un prophète majeur, père d'Ismaël, ancêtre des Arabes, et d'Isaac, symbolisant l'unité des croyants. Aujourd'hui, les patriarches continuent d'inspirer le dialogue interreligieux et la réflexion sur la foi, la famille et la transmission. Leur histoire est à la fois humaine et divine. Elle rappelle que les promesses de Dieu s'inscrivent dans le temps long et que la fidélité, malgré les épreuves, est toujours récompensée. La mémoire des patriarches est célébrée comme un héritage de bénédiction et de responsabilité, rappelant aux Juifs leur mission de perpétuer les valeurs de justice, de foi et de transmission. Leur récit, étudié dans la Torah et commenté par la tradition rabbinique, servent de guide moral et de source d'inspiration pour la vie juive, soulignant l'importance de la famille, de la terre d'Israël et de la fidélité à Dieu.
Avotainu velanu Shelo achavivan Amal aleinu lechalutenu Amal aleinu lechalutenu Ve'ishem dalavutenu Ve'ishem לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד אמן עלינו לחלותנו אמן עלינו לחלותנו מהקדוש ברוך הוא יצילנו יצילנו אבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלוטין לחלותנו, עמד עלינו לחלותנו. מהקדוש ברוך הוא יצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא יצילנו, מצילנו מידם. שלא אחת בלבד עמד עלינו לחלותנו, לחלותנו.
Un très joli morceau, Vei Shehamda. C'est un très très beau morceau que nous avons écouté. Le moment fondateur suivant les patriarches est l'Exode, traditionnellement au XIIIe siècle avant notre ère. L'Exode ou Yetziat Mitzrayim, sortie d'Égypte, est l'événement fondateur du judaïsme, raconté dans le livre de l'Exode, Shemot. Il marque la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte, sous la conduite de Moïse, et la naissance d'Israël comme peuple libre et engagé dans une alliance avec Dieu. Installés en Égypte depuis l'époque de Joseph, les descendants de Jacob deviennent une menace pour Pharaon, qui les réduit en esclavage et ordonne l'extermination des nouveau-nés mâles. Moïse, sauvé des eaux par la fille de Pharaon, est appelé par Dieu pour libérer son peuple. Après une série de 10 fléaux frappant l'Égypte, Pharaon cède enfin et laisse partir les Hébreux. Le récit de la sortie d'Égypte culmine avec la traversée de la mer Rouge, où les eaux se séparent pour laisser passer les Israélites avant de se refermer sur l'armée égyptienne. Cet épisode, symbole de la puissance divine et de la protection de Dieu, est commémoré chaque année lors de la fête de Pessah, la Pâque juive, où la lecture de la Haggadah rappelle aux générations successives leur devoir de mémoire et de transmission. L'Exode ne se limite pas à une libération physique. Non, il scelle l'alliance entre Dieu et Israël au mont Sinaï, où Moïse reçoit les tables de la loi et la Torah. Cet événement fonde la dimension éthique et spirituelle du judaïsme, établissant les 10 commandements et les lois qui régiront la vie collective et individuelle. La traversée du désert dure 40 ans. C'est une période d'épreuves et d'apprentissage où le peuple, malgré ses doutes et ses révoltes, est nourri par la manne et guidé par la colonne de nuée et de feu. Ces années forgent une identité nationale et religieuse, marquée par la construction du tabernacle, lieu de la présence divine au milieu du peuple. L'Exode, c'est en fait le mythe fondateur de la liberté, de la justice et de la foi. Il inspire la liturgie, la pensée et l'action juive, rappelant que la libération de l'oppression est un impératif moral. Chaque juif est invité à se considérer comme ayant personnellement vécu l'Exode, renforçant ainsi le lien entre le passé, le présent et le futur. Aujourd'hui encore, l'Exode résonne comme un appel à la résistance contre toute forme de tyrannie et comme une promesse de rédemption. Il est célébré, il est étudié et actualisé, faisant de la mémoire de l'esclavage et de la libération un pilier de l'identité juive. La nation se consolide en terre d'Israël avec les rois David, le fondateur de Jérusalem, et Salomon, le constructeur du premier temple, vers 960 avant Jésus-Christ. Ce premier temple était le centre spirituel et politique du royaume d'Israël. Il abritait l'Arche d'Alliance, symbole de la présence divine, et il centralisait le culte juif, notamment les sacrifices. Détruit par la prise de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, sa destruction a marqué une rupture traumatique pour le peuple juif. Ce temple est resté un symbole de l'âge d'or d'Israël et de l'unité entre Dieu et son peuple. Sa mémoire est évoquée dans les prières et les textes bibliques, notamment dans les psaumes. Il s'ensuivra la destruction du second temple par les Romains en l'an 70 de notre ère. C'est alors le début de la diaspora, galoute. Le culte des sacrifices est aboli. Le judaïsme rabbinique prend le relais, déplaçant le centre de gravité de la vie religieuse du temple vers la synagogue, le lieu de la prière et de l'étude. Le peuple se disperse alors à travers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.
Avinu
Quelle belle interprétation de Barbra Streisand, que l'on connaît d'ailleurs surtout par son célèbre titre « Woman in Love ». Voici à présent ce qu'il en est de la présence juive en Angleterre du Moyen-Âge à nos jours. Avant l'arrivée de Guillaume le Conquérant en 1066, il n'existait en fait aucune communauté juive établie en Angleterre. Les sources historiques suggèrent que les Juifs étaient absents de l'île depuis la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire le 5e siècle, contrairement à d'autres régions d'Europe. Les lois anglo-saxonnes, influencées par le christianisme, ne mentionnent pas de présence juive et l'Église locale n'évoque pas leur existence. Les premiers Juifs arrivèrent probablement en Angleterre après la conquête normande, invités par Guillaume, pour leurs compétences en finance et en commerce. Avant cela, le pays chrétien consistait en une société rurale et peu ouverte aux échanges internationaux. Les rares mentions de juifs dans les textes anglo-saxons concernent des voyageurs ou des marchands de passage, mais en fait sans implantation durable. Alors l'absence de communauté juive avant 1066 s'explique par l'isolement relatif de l'Angleterre et par les restrictions religieuses. Les Juifs d'Europe continentale, eux, sont persécutés ou limités dans leurs activités et ils ne trouvent pas encore en Angleterre un terrain favorable à leur installation. Après 1066, la population juive vient majoritairement de Rouen en Normandie. L'Église interdit le prêt à intérêt, ce qu'on appelait l'usure, et elle l'interdit aux chrétiens. Par conséquent, les Juifs comblent ce vide et deviennent des agents financiers indispensables à l'économie royale. Oh, ils sont considérés comme la propriété personnelle du roi, qui leur offre protection en échange de taxes exorbitantes. Cette situation crée un double ressentiment. Les débiteurs sont irrités et le clergé voit en eux, je cite, des infidèles et des usuriers. Les 12e et 13e siècles sont une descente aux enfers. En 1144, le premier cas connu de meurtre rituel, Blood Libel, en Europe, se produit à Norwich, une accusation calomnieuse qui prétend que les Juifs tuent des enfants chrétiens pour utiliser leur sang à des fins rituelles. En 1190, les massacres se multiplient. Le plus célèbre étant celui de York, où plus d'une centaine de Juifs préfèrent se suicider collectivement dans la tour du château, Clifford's Tower, plutôt que d'être tués par la foule ou baptisés de force. Le dénouement tragique arrive en 1290. Le roi, Édouard Ier, ordonne l'expulsion, Edict of Expulsion, de tous les Juifs d'Angleterre. Environ 3000 personnes sont chassées du royaume. C'est un événement sans précédent, car il s'agit de la première fois qu'un État expulse la totalité de sa population juive. L'édit ordonne l'expulsion de tous les Juifs du royaume, leur accordant un délai très court pour quitter le pays, sous peine de mort ou de confiscation de leurs biens. Cette décision s'inscrit dans un contexte de persécution croissante, alimenté par des préjugés religieux et une forte pression populaire et ecclésiastique. Les Juifs deviennent la cible de rumeurs et de violences, notamment après les massacres de 1278-1279. Édouard Ier, endetté envers les prêteurs juifs, utilise l'expulsion pour s'approprier leurs créances et leurs propriétés, tout en se posant en défenseur de la foi chrétienne. Les Juifs exilés se réfugient principalement en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne. L'expulsion ne sera officiellement levée qu'en 1656, sous Oliver Cromwell, après plus de 3 siècles. Thank you. C'était beau et émouvant. Kohl Nidre, joué par l'orchestre de Radio Frankfurt Symphony avec Max Bruch et Misha Mesty. Pendant 366 ans, la vie juive publique en Angleterre est interdite. Seuls quelques maranes y résident. Les maranes, c'étaient des juifs d'Espagne et du Portugal, convertis de force au christianisme à partir du XIVe siècle, notamment après le décret de l'Alhambra en 1492. Beaucoup continuaient à pratiquer le judaïsme en secret, malgré les persécutions de l'Inquisition. Le troisième acte s'ouvre au milieu du XVIIe siècle. Ben Israël, un rabbin éminent d'Amsterdam, mène une campagne diplomatique auprès du Lord Protecteur Oliver Cromwell. Le rabbin s'appuie sur une prophétie messianique qui préconisait le retour des Juifs dans toutes les nations du monde. En 1656, Cromwell autorise le retour informel des Juifs. Cette réadmission voit d'abord l'arrivée de Séfarades, qui fondent la synagogue de Bevis Marks à Londres en 1701. Cette synagogue est d'ailleurs toujours en activité. Or, les Séfarades, ce sont des Juifs originaires de la péninsule ibérique, Espagne et Portugal, et ce sont des descendants des communautés juives qui y vécurent jusqu'à leur expulsion en 1492. Leur nom vient de l'hébreu Séfarad, désignant l'Espagne. Après l'édit de l'Alhambra, ils se dispersent principalement autour de la Méditerranée, au Maroc, en Turquie, en Grèce, dans les Balkans, et puis aussi en Amérique latine. Ils forment des communautés dynamiques et multiculturelles. Les Séfarades développèrent une riche tradition liturgique, linguistique. Ils ont même inventé d'ailleurs le judéo-espagnol, on dit aussi le ladino. Ils développent aussi une tradition culinaire en s'intégrant aux sociétés d'accueil. Leur héritage, marqué par la fusion des cultures juives, arabes et européennes, reste vraiment un pilier de la diversité juive contemporaine. Alors Cromwell, pour des raisons économiques et stratégiques, permet à des marchands juifs de s'installer à Londres, malgré l'opposition de certains milieux puritains et des marchands locaux. En 1664, le roi Charles II confirme cette tolérance et il accorde des protections aux juifs de Londres. La communauté se développe progressivement, notamment autour de la synagogue de Bevis Marks en 1701, qui est, je vous le rappelle, la première synagogue de Londres. Ce retour marque le début d'une nouvelle ère pour les Juifs en Angleterre. Elle est caractérisée par une intégration progressive dans la société britannique, malgré des restrictions persistantes. Par exemple, l'interdiction de siéger au Parlement jusqu'au XIXe siècle. C'est aussi au début du XVIIIe siècle que se développe la communauté juive ashkénaze. Alors qui sont-ils ? Eh bien, les ashkénazes sont les Juifs originaires d'Europe centrale et orientale, principalement d'Allemagne, de Pologne, de Russie et des Pays-Baltes. Leur nom vient de l'hébreu Ashkenaz, signifiant initialement l'Allemagne médiévale. Leur culture s'est développée autour de la langue yiddish, d'une liturgie spécifique et d'une riche tradition intellectuelle, notamment dans l'étude du Talmud.
Hallelujah, 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 for the Lord God.
un mot sur Handel que nous venons d'écouter. Il a vécu et travaillé en Angleterre. Son célèbre oratorio, le Messie, créé en 1741, utilise en fait des textes bibliques et il symbolise cette époque d'intégration culturelle et de ferveur religieuse protestante qui, en fait, paradoxalement, a rendu l'Angleterre plus tolérante envers les Juifs. Le XVIIIe siècle et le XIXe siècle sont marqués par l'émancipation. Les Juifs reçoivent progressivement les pleins droits civiques, une rareté en Europe à cette époque. C'est l'ère de l'intégration et de l'essor. Après les persécutions et les pogroms en Europe, une grande partie des Ashkénazes a émigré vers les États-Unis, l'Angleterre, la France et Israël au XIXe siècle. La communauté juive anglaise connaît une transformation majeure à la fin du XIXe. En effet, plus de 150 000 juifs ashkénazes, donc d'Europe de l'Est, fuient les pogroms de l'Empire russe, souvent orchestrés ou tolérés par le régime. Ils s'installent notamment dans l'East End de Londres. Ils apportent la richesse de la culture yiddish, cette langue judéo-allemande, et du mode de vie traditionnel des Stelz, petite ville juive. Le XXe siècle consolide l'Angleterre comme terre d'accueil. Pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918, la communauté juive anglaise, forte d'environ 300 000 personnes, majoritairement des Ashkénazes récemment arrivés d'Europe de l'Est, s'est en fait profondément impliquée dans l'effort de guerre britannique. Malgré leur statut de minorité souvent marginalisée, les Juifs anglais ont montré un patriotisme marqué, voyant dans leur engagement une occasion de démontrer leur loyauté envers le Royaume-Uni et de s'intégrer pleinement à la société britannique. Dès le début du conflit, des milliers de jeunes Juifs se sont enrôlés dans l'armée britannique et ils servaient dans tous les corps d'armée, y compris dans les régiments de première ligne. Leur taux d'engagement était même supérieur à la moyenne nationale, reflétant leur désir comme cela de prouver leur attachement à leur pays d'adoption. Cependant, ils ont souvent dû faire face à l'antisémitisme au sein de l'armée, notamment de la part de certains officiers ou soldats. Sur le front intérieur, la communauté juive a joué un rôle clé dans l'industrie de guerre, notamment dans les secteurs du textile, la métallurgie, la finance. Les usines juives de l'East End londonien, comme celle de la confection, ont été réorientées vers la production de vêtements militaires. Les femmes juives, traditionnellement actives dans ces industries, ont pris en fait une part active dans l'effort de guerre, remplaçant par là même les hommes partis au front. La guerre a aussi été l'occasion pour les Juifs anglais de renforcer leur organisation communautaire. Des associations caritatives juives, comme le Jewish Board of Guardians, ont multiplié les actions pour soutenir les soldats juifs et leurs familles. Ils ont offert une aide financière, des colis et un soutien moral. Des aumôniers militaires juifs ont été nommés pour la première fois afin d'accompagner spirituellement les soldats sur le front. En 1917, le gouvernement britannique exprime son soutien à la déclaration Balfour, sous l'influence de figures juives comme Chaim Weizmann. Cette déclaration proclame, je cite, « un foyer national pour le peuple juif en Palestine ». Ce fut un immense espoir au sein de la communauté juive anglaise et une reconnaissance de leurs aspirations nationales, mais aussi et enfin une récompense pour leur engagement dans la guerre. Cependant, le conflit de 14-18 a aussi exacerbé les tensions sociales et économiques. L'East End de Londres, où vivait une grande partie de la communauté juive, a été touchée par les restrictions alimentaires et les pénuries. Tout cela a aggravé leurs conditions de vie déjà précaires. Les Juifs ont également été accusés, à tort, de profiter de la guerre pour s'enrichir, ce qui a alimenté des rumeurs antisémites. Malgré ces difficultés, l'intégration des Juifs s'est accélérée dans la société britannique. Leur participation active à l'effort de guerre a contribué à dissoudre certains préjugés et à ouvrir des nouvelles opportunités, qu'elles soient sociales ou professionnelles. Après la guerre, leur rôle dans la reconstruction du pays et leur implication dans la vie politique et culturelle se sont encore renforcées. Et tout cela a posé les bases d'une communauté juive anglaise plus unie et mieux intégrée. S'il s'agit de parler de la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive anglaise, forte d'environ 350 000 personnes, s'est mobilisée massivement pour soutenir l'effort de guerre. Consciente de la menace nazie et des persécutions subies par les Juifs en Europe, elle a vu dans la lutte contre l'Allemagne hitlérienne une cause existentielle. Des milliers de Juifs britanniques se sont engagés dans l'armée, dans l'aviation comme la Royal Air Force, dans la marine, souvent avec un taux de volontariat supérieur à la moyenne nationale. Sur le front intérieur, les Juifs ont joué un rôle clé dans l'industrie, dans la logistique, dans les services de renseignement. Beaucoup travaillaient dans les usines de l'East End londonien, produisant des armes, des uniformes et du matériel militaire. Les femmes juives, là encore, comme pendant la Première Guerre mondiale, étaient actives dans le textile et la confection. Et elles ont massivement rejoint les usines. Elles ont servi comme infirmières et comme volontaires dans la défense civile. La communauté a ainsi été profondément marquée par l'afflux de réfugiés juifs qui fuyaient l'Europe nazie. Dès 1938, après la nuit de Cristal, le Royaume-Uni a accueilli près de 10 000 enfants juifs via le programme Kindertransport, sauvés de la déportation. Ces réfugiés, souvent séparés de leurs familles, ont été pris en charge par des familles juives et des organisations comme le Jewish Refugees Committee. Pendant le Blitz 1940-1941, l'East End a été lourdement bombardé, causant des centaines de morts et des destructions massives. Les synagogues, comme celle de Bevis Marks, ont servi de refuge et les associations juives ont organisé des secours pour les sinistrés, qu'ils soient juifs ou non. L'antisémitisme, bien que moins virulent qu'en Europe continentale, a persisté en Angleterre. Certains milieux d'extrême droite, comme l'Union britannique des fascistes d'Oswald Mosley, ont tenté de profiter de la guerre pour propager des théories du complot juif. Cependant, la communauté a su y répondre par une mobilisation et une collaboration étroite avec les autorités britanniques. Les Juifs anglais découvrirent malheureusement progressivement la Shoah. Dès 1942, les informations sur l'extermination systématique des Juifs en Europe ont commencé à filtrer, suscitant une profonde angoisse et une volonté d'agir. Des organisations juives, comme le Board of Deputies of British Jews, ont fait pression sur le gouvernement pour qu'il intervienne, notamment en faveur des Juifs de Hongrie, en 1944. À la fin de la guerre, la communauté juive anglaise a joué un rôle actif dans l'accueil des survivants de la Shoah et dans la création de l'État d'Israël en 1948. Leur expérience de la guerre a renforcé leur identité collective et leur engagement en faveur des droits humains et de la lutte contre le racisme.
Aidi shemame Sie macht doch sies die ganze Welt Aidi shemame Oi weg die bitte wenn sie fällt Ihr darf doch danken Gott Wo sich hat ihr noch bei sie Oi weh, wie treu ich zu sein, wenn sie geht, da wegzugehen. In Wasser, in Feier, wollt sie gelaufen, fahr ihr Kind.
nicht um sie teuer. Du siehst gewiss, die größte sind. Oi, wie glücklich in Reihe ist der Mensch, wo so, als ein Scheine mit ohne Geschäft in Gold. Nur ein altes Gehirnische Mame, Mame, Mame.
Le XXe siècle consolide l'Angleterre comme terre d'accueil. Environ 70 000 juifs, dont des enfants, fuient le nazisme et y trouvent refuge avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le judaïsme britannique est l'un des plus importants et des plus diversifiés d'Europe, avec une vie religieuse intense. Elle va des communautés hassidiques et orthodoxes, très visibles, comme dans les quartiers comme Stamford Hill à Londres, au mouvement progressiste qui contribue activement à la vie en société. En cela, la communauté juive du Royaume-Uni est une illustration moderne de la résilience et d'une réelle capacité à s'intégrer. Et en cadeau final, je vous offre l'hymne national israélien, Atikva, avec une version surprenante. Je voudrais dédier le morceau qui vient à tous les enfants qui nous écoutent et les autres, dans un message de paix et de concorde. Émouvant, n'est-ce pas? Très très joli, très mignon. Ainsi se termine ce numéro consacré à l'histoire de la communauté juive à travers les siècles. Des tentes d'Abraham aux synagogues d'Angleterre, l'histoire du peuple juif est une quête incessante d'un lieu où vivre en paix et en fidélité à son héritage, toujours avec persévérance. Je voudrais transmettre un message personnel à Aurore, Thierry et Élie pour les remercier d'avoir lu avec attention le texte de cette émission et je veux leur dire tout simplement « Toda Rabba ». Notre prochain rendez-vous sera consacré à Noël dans la tradition anglaise pour toujours plus d'ouverture et de culture. Nous célébrerons à notre façon les Christmas Carols. Alors, à bientôt sur Radio Shalom Bourgogne et bye bye.